Ça, je vais parler du corps dans le chemin spirituel et dans la pratique de Vipassana. De donner tout un exposé sur le corps, ça paraît tout d'abord un peu sujet un petit peu limité pour parler pendant tout un exposé, essayer d'écrire ce qui se passe avec le corps dans la pratique. Pourtant, je crois que c'est très important. Donc, je vais essayer de décrire quelques aspects qui aussi valorisent le corps dans la pratique et aussi nous donnent l'envie d'explorer, rendre compte, je crois, de la richesse de cette exploration. C'est très rare que dans un chemin spirituel, le corps soit tellement mis en avant, le corps dans ses activités les plus simples. Si on imagine que dans la tradition bouddhique, eh bien c'est les gestes les plus simples de la vie quotidienne qui sont le chemin pour aller vers l'éveil. Ça, c'est extrêmement rare, décrit dans le Satipatthana Sutra, tous les mouvements extrêmement simples. Et ce n'est pas juste une manière de ne pas être distrait, c'est aussi un chemin vers l'éveil. Donc ça paraît assez inhabituel. Il y a bien quelques traditions qui donnent une importance au corps, mais peut-être plutôt dans un sens de transe, pour faire surgir des états de conscience modifiés, peut-être comme la danse des derviches, par exemple, quelque chose d'immensément sophistiqué, mais je pense que ça amène à des états de conscience particuliers et que ce n'est plus le geste ordinaire. Donc pour nous, c'est la simplicité de à chaque instant ce que nous faisons. À nouveau, ce n'est pas pour ne pas être distrait, pour avoir une meilleure assise, mais c'est le chemin vers l'éveil. Qu'on peut s'éveiller en ouvrant une porte, mais aussi en la fermant. Il n'y a pas besoin de toujours être juste, vous allez ouvrir la porte beaucoup de fois pour vous assurer. Dans n'importe quel mouvement, dans n'importe quelle action, c'est possible, dans le fond, de découvrir toute la richesse du chemin spirituel. Parce qu'on a l'impression que l'assise est vraiment ce qui ressemble le plus au Bouddha, parce qu'on le représente toujours assis en train de méditer. De temps en temps, en Thaïlande aussi, en train de marcher, mais comme si c'était le seul moyen. L'assise est très importante, ça nous permet de développer une sensibilité extrêmement subtile, mais chaque moment de l'expérience de vie a ce potentiel pour nous de nous éveiller. J'ai lu une phrase un jour de Lacan, je vous dis, c'est la seule que j'ai jamais compris parce que je ne comprends rien à ce qu'il dit. Et en plus, ça m'a paru tellement bizarre de sa part. Il dit, le corps, ça devrait vous épater plus. Le corps, ça devrait vous épater plus. Donc il fait vraiment l'éloge du corps en disant, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus étonné, plus fasciné par cet aspect de notre vie ? C'est vrai qu'il y a une ambiguïté dans le corps, comme nous le vivons. Parce que dans le fond, le corps, comme base sensorielle, est différent des autres. Base sensorielle, l'œil y voit, mais il ne se voit pas lui-même. L'oreille, elle entend, mais elle ne s'entend pas elle-même. Alors que le corps, il s'éprouve lui-même. Le corps, il est à la fois la base sensorielle pour l'expérience de lui-même. Pas l'éprouver à l'extérieur. Donc il est cette manière de faire sa propre expérience, l'expérience de lui-même. Pas quelque chose qui peut être à l'extérieur, si on touche le corps d'une autre personne, ça nous renvoie toujours à notre propre corps, à nos propres sensations. Donc le corps, dans le fond, il a cette ambiguïté parce qu'il est perçu par les autres, c'est un corps-objet qu'on peut montrer, qu'on décore, etc., qu'on habille, le corps qu'on voit et qu'on montre. Et puis il y a le corps vécu, qui est le corps que l'autre ne peut pas voir. En regardant une personne, on ne peut pas faire l'expérience de sa présence corporelle. Donc il y a ce double aspect qui donne la complexité, dans le fond, de l'exploration du corps. Et on verra dans les sutras, on aborde ces deux aspects, le corps objet, le corps qu'on analyse, si vous voulez, qu'on découpe en morceaux, et puis le corps un corps de présence, un corps vécu. Donc, se dégager de cette croyance que le corps est toujours un corps objet. Donc un corps qu'on va observer. Et on se rend compte dans la pratique méditative, au début en tout cas, ou quand on enseigne avec certaines personnes, qu'il y a cette approche du corps comme quelque chose qu'on devrait observer. On va observer pour découvrir ce que c'est. Et observer le corps, alors on se demande dans le fond, où est l'expérience, si c'est le corps qu'on observe, ou bien si c'est l'observation elle-même. Il y a là une ambiguïté. Dans un des sutras, un moine demande au Bouddha si le corps et l'esprit sont la même chose ou s'ils sont différents. Il pose cette question très claire et le Bouddha refuse de répondre. Refuse de répondre parce que dans les deux cas, eh bien, il pourrait amener de la confusion. S'il dit qu'ils sont différents, à ce moment-là, on est dans la confusion d'un corps-objet. S'il dit qu'ils sont la même chose, il amène aussi une certaine confusion du corps, justement, ce corps qui est quand même le moyen de communication avec les autres. Descartes, il affirmait que le corps est plus difficile à connaître que l'âme. Le corps est plus difficile à connaître que l'âme ou la conscience. Donc c'est une exploration qui n'est pas donnée, qui n'est pas si simple, mais qui est un champ d'exploration, de découverte qui est immense. De ne pas croire qu'on a tout de suite accès à cette présence corporelle, qu'on a tout de suite accès à ce corps comme sujet. C'est aussi un chemin de découverte pour la plupart d'entre nous. De temps en temps, il y a une ou deux personnes qui semblent avoir cette capacité ou cette qualité un peu innée. Tant mieux, mais ce n'est pas la majorité. Pour la plupart d'entre nous, c'est un cheminement qui va lentement découvrir cette manière d'être, de découvrir, pour prendre le langage de Descartes, ce qu'est le corps vécu, pas le corps objet. En évoquant ici une description que fait Schrödinger, donc ce prix Nobel de physique quantique, je ne sais pas, en 35 ou autre, qui a fait de la philosophie, qui disait toute la science depuis les Grecs est partie sur un drôle d'a priori parce que elle tente, les philosophes, les scientifiques, essayent d'expliquer le monde, de le décrire sans l'être humain. Comme si d'abord on pouvait décrire un monde qui existerait sans l'être humain, puis après on essaie de tout d'un coup de l'introduire, puis ça devient difficile parce qu'on ne sait pas comment il peut se relier à ce monde qui existe sans lui. Un monde qui est là, on l'explique, et puis c'est bien la difficulté qu'on a toujours d'essayer tout d'un coup de trouver la place de l'être humain dans ce monde qui a été conçu comme existant sans que l'être humain soit d'abord partie prenante de cette constitution du monde. Donc, dans ce sens-là, alors le corps, il est mis comme objet dans le monde. On a voilà, les montagnes, etc., les rivières, et puis on a le corps. Mais il est aussi placé comme objet du monde. Il n'est pas mis d'emblée comme vécu. Notamment, c'est bien d'après le corps que le monde est perçu. Tout le monde que nous percevons, il est là perçu de cette position particulière du corps vécu. Donc, de croire qu'on pourrait expliquer un monde sans l'être humain, c'est absurde. Donc, il y a cette ambiguïté où on est à la fois totalement corps et à la fois totalement conscience. On est les deux en totalité. Et on n'est pas un peu le corps, un peu la conscience, où on essaye de les mélanger. On est en totalité le corps et en totalité la conscience. C'est le langage qui nous oblige un petit peu à faire ceci. Donc c'est comme si le corps se goûtait lui-même. une image intéressante. Le corps se goûte lui-même. Hein. C'est pas que mettre l'attention, etc. C'est qu'il est déjà comme il est déjà comme élément vécu. Alors si on n'en fait pas cette expérience-là, c'est évidemment parce que on est centré sur autre chose. On va voir sur quoi on est centré, qui fait que finalement on n'a pas cette immédiateté dans cette intimité corporelle. Je mentionnais l'autre jour ce chorégraphe qui disait « Par le gravitaire, je sais toujours où je suis. Par le poids du corps, je sais toujours où je suis. » Ça nous met exactement là où on est. Le fait que nous existons de manière tangible, pesante. Je sais où je suis, mais ça veut aussi dire « je suis où je suis ». Je vous donne une citation de Paul Valéry qui a écrit un beau texte sur la danse. Là, j'ai résumé évidemment immensément, mais il parle de choses qui nous concernent ici. Il dit « Nos pas nous sont si faciles et si familiers qu'ils n'ont jamais l'honneur d'être considérés en eux-mêmes. Ils mènent donc comme ils le savent, nous qui les ignorons naïvement, nous les perdons sans y penser. » On perd la richesse de chaque pas parce que voilà, ils nous mènent, ils savent très bien où ils vont, parce qu'on ne leur donne jamais l'honneur d'être considérés en eux-mêmes. En eux-mêmes, non pas comme objet, mais comme qualité de présence. Donc il y a deux expériences du corps, l'expérience du corps que j'ai, que je montre, et puis le corps vécu. Dans le Satipatthana Sutra, on commence par la respiration et ensuite parler des parties du corps et puis d'un corps en décomposition, etc., etc. Ça, évidemment, c'est le corps-objet qui est décrit de manière minutieuse pour ne pas s'attacher à ce corps qu'on considère comme objet qui va se dégrader, etc. Donc, on a toute une réflexion sur cet aspect du corps aussi pour contrecarrer le désir sexuel, voir quand on voit l'intérieur, et puis bon, ça devient un peu moins fascinant, quoi. Donc c'est un peu le but de l'opération. Donc c'est un corps-chose, dans le fond. Et puis il y a l'autre aspect du corps dont on fait l'expérience, c'est le corps de présence. C'est le corps qu'on est. J'ai marqué celui que nous éprouvons, mais on pourrait dire celui qui s'éprouve lui-même. Le corps qui fait l'expérience de lui-même. Vous voyez, le langage, il est fait pour diviser, séparer. Et là, tout d'un coup, il faut parler d'une certaine manière pour essayer de ne pas tomber dans cette division. Donc la deuxième partie du sutra, enfin l'étape suivante, c'est de parler du corps vécu, du corps sujet, on pourrait dire, puisqu'on parle des mouvements du corps, des positions, etc. Donc le sutra est simple, en tout cas dans sa traduction, puisqu'il dit « lorsqu'une personne marche, elle sait, je marche. Lorsqu'une personne tourne la tête, elle sait, je tourne la tête. » Donc là, ce savoir... Si on l'interprète immédiatement comme objet, on a l'impression qu'on se place à l'extérieur et on sait qu'on tourne la tête, on sait qu'on marche, par exemple. Mais ce savoir, il faudrait dire on est présent à ceci, on est présent à la marche, on est présent au mouvement. C'est pour ça que savoir ici est un peu ambigu. Je ne sais pas ce que le Pali dit, mais le Pali aussi a les mêmes difficultés. C'est aussi un langage qui divise, donc il a aussi de la peine à trouver un langage qui, qui essaie d'exprimer ce qui est dans la plus grande intimité. Donc cette manière de valoriser tous les mouvements de la vie quotidienne, la marche, le fait de manger, de boire, tourner la tête, tendre le bras, etc., enfiler ses chaussures. Donc, comme expérience du vécu et non pas comme champ d'observation. Même s'il est vrai que dans un premier temps, il y a quand même ce fait de se centrer un peu sur ce qu'on fait, pour ne pas prendre les chaussures de quelqu'un d'autre, par exemple. On a besoin de cette attention, mais par moment, c'est nécessaire, mais quand même, la découverte, la richesse de cet aspect de la pratique du Satipatthana, c'est vraiment d'être complètement en phase, d'être ces activités. Donc non pas se regarder marcher, je prends le langage des fois des danseuses ou chorégraphes parce qu'il me semble que elles sont confrontées à ces difficultés du langage. C'est leur domaine d'exploration. Vous savez, que je trouve qu'elles amènent beaucoup d'enrichissement. Et donc, une parlait de ce processus de pratique de la danse qui débouche sur un être-corps. On devient le corps. C'est plus un corps qu'on maîtrise de manière extraordinaire en tant que danseuse, mais c'est cet être-corps. On devient ce corps, ou un corps de présence. Donc on n'est pas là dans une observation minutieuse, on est vraiment dans un rapport différent, plus ouvert. Lorsqu'on observe le corps, il y a le fait de se couper de l'environnement. Parce qu'on se retourne sur le corps, donc on ne voit pas l'expérience, on ne voit pas le monde extérieur. Alors en général, on a cette attitude, soit on se perd vers le monde extérieur, soit on se retourne sur le corps, et finalement, le corps, l'expérience du corps qu'on observe, on place l'attention, elle est coupée du monde extérieur. Mais lorsqu'il y a cet être-corps, ou ce corps de présence, eh bien, il y a une présence ici qui est ouverte sur le monde. Cette présence est ouverte sur le monde, puisqu'il n'y a pas ce retour sur soi-même. Il y a juste cette manière d'être là, et quand on est là, eh bien, évidemment, il n'y a pas cette rupture entre soi et le monde, rupture entre soi et les autres. On est totalement avec les autres, mais pas comme objet visé, ni comme objet d'exclusion parce qu'on veut se retourner sur le corps, on est simplement là. Donc ce qu'on explore, c'est cette manière d'être simplement là. Et on n'a pas besoin de choses compliquées pour ça. Il suffit de pouvoir se tenir debout quelques instants, d'être assis et autres. On peut découvrir ceci quand on vient dans la salle de méditation. Voilà, est-ce qu'on vise déjà le coussin ou est-ce qu'on est là à chaque instant? Comme si la méditation allait se passer sur le coussin, elle ne se passe pas dans le trajet. C'est plus important sur le coussin. Et quand on s'assied à ce moment-là, on peut très bien saisir une représentation du corps assis, c'est une image, corps-objet, si vous voulez, voilà, on a la représentation du corps assis, et puis maintenant, je vais commencer à méditer. Maintenant, je vais commencer à méditer, alors que l'assise, elle suffit. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Le fait d'être assis là, pleinement, c'est la méditation. Joseph Goldstein, il citait son maître Monindra qui disait « Si vous êtes assis et que vous savez que vous êtes assis, ça suffit. » Savoir, c'est un peu ambigu, mais si vous êtes assis et totalement présent au fait d'être assis, vous êtes la méditation. Il n'y a pas besoin ensuite de commencer à se compliquer la vie. C'est simple. Mais évidemment, ça ne demande de pas éviter d'être en contact avec le corps. Et il arrive qu'on évite, pas parce qu'on est mal intentionné, mais parce que quelquefois, il y a des douleurs dans le corps, il y a un mal-être, et donc il y a, on pourrait dire, des bonnes raisons qui nous poussent quelquefois à pas vraiment envie d'être là corporellement. Simplement pour ne pas se dire, oh, mais si on m'avait dit avant, d'accord, je m'assieds, c'est la méditation. Bon, il y a quand même quelquefois aussi des conditions qui font que on a pris l'habitude d'éviter d'être simplement là corporellement. Je vous cite une phrase de Grotowski, le metteur en scène polonais. Je les cite parce qu'elles sont c'est assez précis comme c'est exprimé. Donc, si je n'ai pas la phrase, j'ai peur de rater un peu la précision. Donc, Grotowski travaillait avec des acteurs en Pologne, pas vraiment pour faire des pièces de théâtre, parce qu'il passait 3-4 ans dans une ferme, dans la campagne polonaise, pour explorer dans le fond la qualité d'un acteur, d'une actrice. L'authenticité dans leur travail. Donc je crois que par la suite, d'ailleurs, elle n'a plus fait aucune représentation, simplement parce que c'est ce travail qui l'intéressait, de travailler avec les acteurs, les actrices, pour voir qu'est-ce qui se passait. Alors voilà, il donne une phrase. Il dit: quand je dis que l'action doit engager tout l'être de l'acteur, sans quoi sa réaction est sans vie, je ne parle pas de quelque chose d'extérieur, comme des gestes exagérés. Cet acte de dévoilement total, il devient une offrande de soi, j'appelle cela un acte total. L'acte total d'être totalement dans ce qu'on fait. Et pas à moitié. Donc ce qu'il décrit là, évidemment, c'est pas quelque chose qui est séparé de notre exploration. C'est fait à sa manière. Manière d'être totalement dans ce qu'on fait. Et un aspect que j'aime bien évoquer, c'est que c'est le fait de regarder ce qu'on fait. Et ça aide à être en phase. Un peu comme une caméra qui aurait une focale juste. De regarder ce qu'on fait, ça nous permet d'être là. On pourrait ouvrir la porte et déjà regarder. Ah, il y a quelqu'un qui tient la porte, je ne l'ai pas vu. Constamment, le regard anticipe. Il est déjà là en train de voir la prochaine étape. Donc il est un très bon indicateur pour nous montrer si on est vraiment là ou si on anticipe. Maintenant, qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas si facile, dans le fond, d'être présent dans le mouvement, dans la marche? Ce n'est pas parce qu'on n'y avait pas pensé, ce n'est pas parce qu'on ne nous l'avait pas dit. Il y a quand même des habitudes qui font là que, dans le fond, ce n'est pas donné, ce n'est pas évident, ce n'est pas si simple. Une des raisons dans la marche, par exemple, c'est l'habitude d'anticiper, d'être toujours concerné par là où on va. Alors même si on ne va pas très loin dans la marche, on est déjà en train de regarder là où on va. On est toujours en train de regarder là où on va. Et sans s'intéresser dans le fond à là où on est. Si on est vraiment là où on est à chaque instant, bouger ou pas bouger, ça ne fait pas de différence. Il y a cette qualité de présence, qu'on soit en mouvement ou pas en mouvement, c'est exactement la même chose. Vous pouvez essayer des fois dans la marche, hein, marcher, vous arrêtez, marcher, vous arrêtez, marcher, vous arrêtez. Et observer, étudier, est-ce que l'arrêt, c'est l'arrêt d'un projet qui va continuer après, ou c'est simplement en mouvement, sans mouvement, en mouvement, sans mouvement. Voyez, un peu comme si on est à un feu rouge, on attend que ça soit vert pour partir, ou bien on est simplement là. Et ça a l'air très simple, mais on se rend compte de la tension qu'il y a quand on est à l'arrêt et qu'on est déjà en train d'attendre de continuer le projet. J'avais donné plusieurs reprises, hein, une anecdote que décrit un maître dans un vieux texte, un texte tibétain du 8e siècle, où un maître dit à son élève, va là-bas vers le rocher, et à mi-parcours, il l'arrête, il lui dit, reviens, et lui dit, qu'en est-il de la partie que tu n'as pas parcourue? C'est où, ça, le chemin que tu n'as pas parcouru? Le chemin, il est évidemment nulle part, il n'a jamais même existé. C'était juste dans son esprit. Il était là, en mouvement, il s'est arrêté, il est revenu. Il n'y a pas de chemin non parcouru. Donc essayez de, parfois, si ça vous dit de marcher, vous arrêtez, marcher, vous arrêtez. Être simplement debout, en mouvement. Et soyez sensible, vous allez voir que quelquefois il y a une tension. Une tension pour se mettre en marche. Bon, maintenant, on a quand même un petit problème, c'est que, voilà, on marche, on s'arrête, on marche, mais à quel moment est-ce qu'on va repartir? On va avoir un projet, j'y vais. Mais si j'y vais, ben, je suis déjà en train de partir avant de partir. Donc, ce que je vous décris, c'est du vécu corporel, c'est dans l'instant, c'est pas un truc mental, ouais, alors je pars, je vais pas partir, je pars, etc. Donc, vous êtes debout. Vous êtes arrêté. Et maintenant vient la question de est-ce que je peux me mettre à marcher sans être dans l'anticipation, sans avoir un projet devant moi que je vais remplir? En étant là debout et puis tout d'un coup en étant en mouvement sans qu'il y ait ce projet qui a fait un flou dans le fond. Donc, pour ceci, je vous donne quelques réflexions pour étudier ceci. Si ça vous parle, explorez. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. C'est une manière de jouer pour enrichir la méditation en marchant. C'est pas, il faut faire comme ceci, c'est pas des trucs. Mais en fait, dans cette anticipation, c'est comme si l'esprit ou la représentation ne laissait pas le temps au corps d'être disponible. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Alors à ce moment-là, on a l'impression que l'esprit il a déjà sa représentation et il part. Donc il est important de laisser un laps de temps très court pour qu'on sente qu'il y ait cette unité, et à ce moment-là, le mouvement, il part dans l'unité. C'est comme s'il y avait une manière de sursoir un tout petit peu le mouvement, très léger, qui fait qu'à ce moment-là, on sent dans le corps qu'il y a cette unité et qu'on peut marcher. Il y a l'unité et non pas le projet. Donc ça joue pour ce que je vous décris là, mais ça joue aussi pour tout mouvement. Fait de bouger un bras, par exemple, alors voilà, je remplis un projet où ici il y a juste ce petit laps de temps, décalage très très faible, qui fait que tout d'un coup, il y a cette unité dans le corps et dans le mouvement. Un décalage extrêmement faible. Maintenant, évidemment, ce décalage, il faut le placer dans le corps, parce que si vous dites, d'accord, il y a un décalage, mais à quel moment je pars maintenant? Combien de temps je dois attendre? Ce décalage, il doit être combien de temps? Décalage, c'est le temps d'être dans le corps, que cette présence elle est corporelle, et à ce moment-là, on a l'impression que quelque chose surgit de ceci. Mais un des obstacles, c'est cette anticipation. Parce qu'on veut le résultat des actions. L'action, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est le résultat. Ça ne nous intéresse pas de marcher dans la salle. Ce qu'on veut, c'est être assis. Peu importe comment, mais il s'agit d'être assis. Ça ne nous intéresse pas d'aller au réfectoire. Ce qui nous intéresse, c'est d'être au réfectoire. Dans ce mouvement-là, l'important, c'est le je et le réfectoire. Aller, ça, c'est oublié. Alors que dans le fond, on est justement l'aller. La vie, ce corps en vie, c'est justement ce qui bouge, c'est ce qui fait, c'est pas ni le je, ni le réfectoire. Et la chose essentielle, c'est celle qui est négligée dans cette attitude-là. Donc cette anticipation est ce qui fait que on oublie l'essentiel. Et là, on sent bien que ça nous maintient dans cette notion d'un moi-je. Accomplir quelque chose, et on oublie ce moyen d'accomplir ce quelque chose qui est notre vie même. Notre vie, c'est toujours le moyen d'accomplir quelque chose. On est toujours en mouvement, si vous voulez, même si on est assis, il y a des petits mouvements. Donc, lorsqu'on est obnubilé par l'accomplissement, à ce moment-là, on n'est pas là. Mais si on médite et puis qu'on veut devenir un Bouddha, on veut être éveillé, etc., ben on ne va pas être là. On va anticiper, bon, ce n'est pas vraiment ce qu'on anticipe, mais enfin, on n'est pas juste là avec ce qui se passe dans l'instant. On s'en fout de ceci, devenir quoi? On s'en fout, c'est être là. Tout est là dans cet être-là. Il n'y a rien qui ne soit pas dans cet être-là. Et si on cherche, on se fatigue. C'est décourageant. Tout est là à chaque instant. C'est cette anticipation de quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, on est dans l'abstrait. Alexander, donc, qui a inventé la technique Alexander, il disait, hein, ce qui est important, c'est le moyen par lequel, et nous sommes ce moyen par lequel, le moyen par lequel je me lève, par exemple, c'est ce mouvement extrêmement riche. Non pas le fait d'être debout et autre, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement d'une richesse immense de se lever, de sortir de la salle, de mettre ses chaussures. Et tout est là. Très simple. On se lève, sort de la salle, on met ses chaussures. On est éveillé. Ça vaut le coup. Lève, debout, sort de la salle, met ses chaussures, éveillé. C'est ce que dit Lin Shi, le plus grand maître peut-être du Chan chinois. Quand on lui demande qu'est-ce que c'est que sa pratique, il dit, ben voilà, moi je vais chercher de l'eau pour faire le feu. Je prépare le riz, quand j'ai faim, je mange, et le soir venu, je me couche. Voilà sa pratique. Il n'a pas dit se lever, sortir de la salle et autres, mais bon, c'est une interprétation. Mais c'est cette simplicité, là. Et on veut trouver des choses plus compliquées. Mais ces choses compliquées, c'est de l'abstraction. C'est la richesse, la profondeur est dans la simplicité de ceci. Oui, si nous donnons l'outil par lequel on accomplit quelque chose, quand je dis le moyen par lequel on marche, c'est pas qu'on va l'utiliser en se perdant dans l'accomplissement, c'est qu'on est là à chaque instant, mais conscient de ceci. Et la différence d'un marteau, le marteau, il n'a aucune existence authentique. On l'utilise pour planter un clou, quand on a fini de planter le clou, on ne sait même plus, on l'a oublié, il n'existe plus. Il est complètement inauthentique. En lui-même, il n'a aucune existence. Il n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, de cette action. Nous, l'activité, il y a cette présence à chaque instant. Donc le contact avec la nature, on a de la chance d'avoir une belle nature, même de la brume, parfois c'est très beau, un peu humide, mais enfin c'est quand même magnifique. Ce rapport qu'on peut avoir avec la nature, ici, c'est une chance immense. Eh bien, c'est aussi un rapport de présence, pas un rapport utilitaire. Évidemment, on ne voit pas les arbres comme un bûcheron. On pourra le couper, celui-là, il va donner du bon bois, etc. On le voit plutôt comme une chamane. Ce qui veut dire, ni comme un botaniste qui va observer comme une chamane dans ce sens-là, ça veut dire que c'est en étant là, dans la nature, que je me rends compte ce que m'apporte la nature. La nature, elle a un impact en moi, sur moi, elle m'enrichit. Non parce que je vais observer encore plus profondément, parce que là je me perds, mais c'est parce que dans cette présence-là, en moi-même, même si ce n'est pas quelque chose de fermé, cette présence-là, eh bien à ce moment-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une sensibilité qui fait qu'il y a ce, on pourrait dire, ce dialogue de la nature et soi-même, parce qu'on est réceptif, non pas parce qu'on va comme des intrus. Donc, par un moment, évidemment, profiter de cet endroit magnifique, mais avec ce, qu'est-ce que ça fait que d'être là? Comment est-ce que je ressens ce fait d'être là? Donc ça permet de développer une sensibilité qui est immense et qui demande cette qualité de présence. Donc de manière créative, c'est sympa, etc., sans rien s'imposer. On peut aussi voir ce jeu, dans le fond, dans nos expériences corporelles. Quand il y a douleur dans mon genou, dans mon épaule, voilà, évidemment, il y a une sorte de chosification de cette zone-là, etc. Et puis, tout d'un coup, je me fixe pas sur les termes douleur ou même zone du corps, mais je les ressens, je vis ces zones-là. Donc là, j'ai vraiment passé à quelque chose qui est de l'ordre du jugement de la représentation à un vécu. Donc cette présence qu'on peut avoir, qu'elle a dans toutes les positions, assis, debout, en mouvement, couché. Elle est la même dans toutes les positions. Il n'y a pas une présence assise, une présence debout, une présence couchée, une présence en marche. C'est la même, mais elle n'est pas permanente. Elle est là à chaque instant. C'est la présence quand on est assis, c'est comment est vécu ce contexte-là. Patricia a parlé hier soir de la conscience, peut-être de la somnolence, qui est pas somnolente. Ben, la présence assise, elle ne devient pas assise. La présence debout, ce n'est pas une présence debout. La présence en marche, ce n'est pas non plus une présence en marche. Ou la présence couchée, elle est pas enfermée, cernée par la position particulière. Mais elle n'est pas permanente non plus, c'est pas un jeu de mots permanent qui est là, assis, debout, couché, en marche. Elle est là à chaque instant. Et si dans mon assise, il y a la saisie d'une représentation de ma position. Elle semble stable parce que c'est la caractéristique des représentations. À ce moment-là, il ne peut pas y avoir de présence. La présence est hors temporalité. Elle ne peut pas être dans la temporalité. Parce qu'elle est toujours totalité. Donc dans ce sens-là, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Il n'y a rien à saisir dans l'instant. Donc il y a tellement à explorer dans nos mouvements, les transitions, dans le fait d'être assis, dans le fait de se lever. C'est un monde à explorer, mais à être avec toute la richesse à chaque instant, où il ne manque rien. Mais évidemment, on n'apprend pas la méditation en marcher en restant assis. Je le répète toujours parce que voilà, y a des gens qui disent c'est pas mon truc. Ben, si on n'essaye pas, c'est pas son truc, ça c'est vrai. Donc essayez d'explorer. Mais y a pas seulement en marchant, mais en prenant une tasse de thé, dans tous ces mouvements, il y a une richesse. Même si c'est du café, il y a quelque chose d'immensément riche. Dans cette simplicité, il y a tellement à découvrir. Et là, ça ne fait pas appel à des croyances, même si vous dites des fois, qu'est-ce qu'il raconte? Explorez par vous-même dans les différentes expériences. Peut-être que vous trouverez ça, il raconte des histoires, il y a moi, permanent, tac, quand je suis assis, debout, en marche, etc. Ok, mais au moins vous l'aurez découvert dans votre pratique. Voilà donc les quelques mots que je voulais dire au sujet de cette exploration de la méditation marchant dans les mouvements, dans les positions, ce support du corps, la présence du corps à notre pratique qui est essentielle. Et c'est fantastique parce que tant qu'on est en vie, on a toujours un corps, donc il est toujours là, toujours disponible. Même quand il fait mal à un endroit ou l'autre, c'est quand même ce lieu d'exploration. Même si, par moment, on va être attentif, on va diriger l'attention, on va observer, pour ainsi dire, il y a des moments où c'est nécessaire. Des moments où on est un petit peu, on a l'esprit un peu distrait, etc., qui n'est pas assez présent. À ce moment-là, on choisit une zone d'ancrage, on peut choisir même dans la marche, comme j'ai mentionné, de vraiment sentir le poids d'appui sur la jambe arrière, etc., sentir ce mouvement vers le haut. Quand on marche, on ne va pas vers le bas, on va vers le haut. Ce mouvement nous permet de marcher. Donc, on peut aussi, quelquefois, avoir une attention plus focalisée, parce que c'est nécessaire, mais avec cette possibilité, toujours d'ouverture, où c'est pas, ça ne doit pas toujours être comme ceci. Par moment, il se peut qu'on ait quelque chose de plus ouvert, où il y a juste cette présence dans le mouvement, dans la marche ou dans l'assise. Voilà, donc je disais que quand on donne un exposé, quelquefois après, en tout cas moi, je me rends compte que ça a pu aussi prêter à confusion dans le langage qui a été utilisé. Et je me dis, j'aurais dû amener des nuances. Donc c'est pour ça que ce matin, j'aurais amené quelques nuances ou préciser un petit peu la manière dont je me suis exprimé hier. Donc j'ai parlé de présence, présence corporelle, etc. Dans l'assise et autres. Et le problème de parler de présence comme ceci. La présence, c'est comme si c'était un substantif, alors que c'est une manière d'être. C'est juste une manière d'être, être en tant que verbe qui se passe d'instant en instant. Une manière de l'exprimer, ces présences, pour essayer, ces mots essayent d'évoquer un petit peu ce dont il s'agit. Mais c'est quelque chose d'assez statique. Donc c'est une manière d'être dans chaque circonstance, d'être assis, d'être en marche, d'être debout. Et là on se rend compte que l'être, il n'est pas, cette manière d'être n'est pas dépendante des conditions. Donc voilà, c'est ce qu'on explore. Et aussi, ne pas croire que soit la présence, soit cette manière d'être, soit la même chose que l'éveil. C'est quelque chose qui va dans ce sens, qui nous aide immensément à déjà nous dépouiller de beaucoup de confusion. Mais il peut encore y avoir un tout petit peu de confusion par rapport à la présence, par rapport à cette manière d'être. Donc ça, on le précisera plus tard. Donc simplement, à nouveau, les mots qu'on utilise quelquefois, si moi j'ai quelque chose en tête, c'est pas exactement peut-être ce que les mots veulent dire. Donc quelquefois il est important de revenir un petit peu là-dessus. Donc hier soir je me disais, ouais, c'était pas très clair, j'ai mis en avant la présence, mais c'est pas l'éveil, même si c'est déjà une grande qualité méditative, un peu comme l'équanimité.